Donc, comme l'a dit Chris, je suis pasteur à Vendeuvre depuis 10 ans maintenant. Avant, j'étais dans un ministère étudiant avec Agapé Campus pour Christ. J'ai vu qu'il y a les films Jésus hein, qui viennent de nos antennes américaines, n'est-ce pas ? Non, voilà. Donc moi, j'ai travaillé avec les étudiants, surtout des écoles d'ingénieurs, avant de faire un institut biblique. Dans le cadre de l'institut biblique, de faire un stage auprès Saint-Gervais avec Chris et finalement d'atterrir à France Mission et à Vendeuvre. Voilà, Vendeuvre, c'est l'agglomération de Nancy, hein, c'est simplement voilà. Le sud-ouest de Nancy. Voilà, sinon évidemment le plus important, je suis marié, j'ai 4 enfants, les 2 aînés sont au lycée et le dernier termine son école cette année. Puis il y a encore une demoiselle au collège entre deux. Voilà. Le thème que j'ai proposé ou qui m'a été proposé, je ne sais plus, c'est le thème de la grâce. Alors je pars du principe que le problème, c'est pas tellement de comprendre la grâce. Parce qu'on passe notre temps à parler de la grâce dans nos églises. Et lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez bien compte qu'on parle de la grâce tout le temps. Donc le but, c'est bien sûr pas de dire des choses nouvelles, c'est plutôt d'essayer de dire un certain nombre de choses qui vous aident à intégrer la grâce. Parce que le problème, c'est pas qu'on la comprend pas, le problème, c'est qu'on la vit pas. Pour ce premier passage, on va parler de quelques textes bibliques, mais essentiellement d'un texte biblique qui me paraît un texte très important, c'est Éphésiens 2.5. Est-ce que quelqu'un connaît par cœur Éphésiens 2.5 ? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ouais. Donc je vous lis dans la version... Voilà, c'est ça, certains le retrouvent. Je vous lis dans la version du Semeur. « À cause de son grand amour, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » À cause de son grand amour, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je pense, comme je l'ai déjà dit, le Éphésiens 2.5. Ouais. Alors, tout le chapitre 2 d'Éphésiens est centré sur le thème de la grâce. J'ai choisi de lire que celui-ci, on va lire quelques autres passages en cours de route. Et mon but, c'est un peu que vous le connaissiez par cœur à la fin. Hein. À cause de son grand amour, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Je pense que quand on parle de la grâce, il y a un certain nombre de défis. Le premier, comme j'ai dit, c'est que le problème, c'est pas de comprendre. Le problème, c'est de le vivre, c'est de l'intégrer dans notre vie. C'est vraiment croire à la grâce de Dieu. Ouais. Et je suis toujours surpris comme c'est difficile de vraiment croire en la grâce de Dieu. Le croire et puis le vivre, c'est un vrai défi. Vous savez sans doute qu'une des grandes parties des lettres de Paul sont consacrées au problème inverse de la grâce, au problème du légalisme. Il parle de la grâce, mais il parle du problème, semble-t-il, principal dans certaines de ces églises à l'époque, c'est le refus de la grâce, qu'on appelle le légalisme. Quand vous regardez le livre des Galates, il y a 5 chapitres sur le danger de refuser la grâce, et puis seulement un demi-chapitre sur le danger de rester dans le péché, de devenir chrétien et pas de changer de vie. Seulement un demi-chapitre. Ouais. On a parfois tendance, nous aussi, à avoir cette attitude des gens de Galates où voilà, il faut faire des efforts pour se sanctifier et brusquement la grâce a disparu du service. Ouais. On croit parfois à la grâce de Dieu pour notre salut et puis plus pour notre vie. Des fois étonnant, hein ? Un défi aussi, c'est offrir la grâce aux autres. Penser que l'autre, il a besoin que je lui fasse grâce plutôt que je lui fasse des reproches, plutôt que je prenne soin de lui, ou plutôt que je l'encourage à faire des efforts, il a besoin de grâce. Ouais. Je m'appelle une remarque de mon stagiaire, qui me disait, il parlait de l'église où il a grandi, et disait, c'est étonnant parce que quand on fait de l'évangélisation, là, on fait preuve de grâce. On aborde quelqu'un, on essaye de savoir ce qu'il croit de juste, et on valorise ce qu'il croit de juste. Et puis s'il croit des choses fausses, bon, on n'attaque pas frontal, quoi. Par contre, dès que la personne est dans l'église,
un mot de travers et blam.
Vous voyez ? Et dit, mais pourquoi on ne fait pas la même manière finalement ? Valoriser les gens en disant, mais oui, tu es en chemin. Il y a une partie que tu as déjà compris, on va valoriser ça. Puis il y a une partie que tu dois encore comprendre. Ouais, vous voyez ? Pourquoi c'est parfois étonnant comme ça, hein ? Offrir la grâce. Et puis le quatrième défi, c'est que parfois dans nos églises, on confond le fait de faire grâce et le fait de se laisser marcher dessus. Alors, on ne va pas aborder cette question-là parce que je ne peux pas tout faire, hein. Mais c'est parfois le défi dans nos églises. Alors qu'il faut regarder Jésus qui fait grâce, mais qui ne se laisse justement pas marcher dessus. Il y a un des groupes qui va travailler sur un thème dans cette direction-là cet après-midi, mais sinon, moi, j'y reviendrai pas. Mais la Bible y revient très souvent. La grâce de Dieu, comment la vivre, comment l'offrir aux autres, mais aussi comment ne pas la trahir, soit en devenant légaliste, soit en se laissant marcher dessus par les autres. Voilà. Bon, le verset d'aujourd'hui. À cause de son grand amour, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Alors, on ne va pas faire un long développement sur la grâce, mais bon. Grâce, ça veut simplement dire un pardon gratuit, un pardon inconditionnel. Ça veut simplement dire qu'on a, on a rien à démontrer, rien à prouver, rien à faire pour que Dieu nous aime plus ou nous aime moins. C'est ça la grâce, hein ? Jésus a donné sa vie pour nous à cause de son amour. Il l'a donné pour notre salut, c'est ce que dit ce passage, et aussi pour qu'on vive. Il nous a fait revivre, hein ? Et il ne le fait pas parce qu'on aurait fait quelque chose de particulier. Il le fait parce qu'il nous aime. Voilà. Je trouve souvent assez étrange parce que, quelque part, quand on est avec d'autres hommes ou femmes, on rêve tous qu'ils nous fassent grâce, qu'ils nous pardonnent, qu'ils nous acceptent tels qu'on est. On rêve de ça. Et quand la Bible nous dit que Dieu nous fait grâce, on a de la peine à le recevoir. Toujours étrange, hein. En tout cas pour moi, je me dis des fois, je suis vraiment quelqu'un d'un peu spécial. Mais bon, bref, un peu bizarre, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, pour ce temps-ci, parler de quelques-unes des raisons de refuser la grâce. Ouais. Comme j'ai dit, c'est un grand thème de l'apôtre Paul. Il parle de la grâce de Dieu et ensuite il présente pourquoi les chrétiens de son temps ne voulaient pas la grâce. Et quand je discute autour de moi dans mon église à Vendeuvre, je rencontre aussi toutes sortes de gens qui me donnent des grands arguments pour dire pourquoi ils ne veulent pas de la grâce de Dieu. Et parfois, je les repère en moi aussi, donc ça, c'est encore aussi des fois un peu étonnant. Ouais. La vie chrétienne est, selon la Bible, marquée par la joie d'être libre. La joie d'être libre. Et je vois que très souvent, on vit la vie chrétienne comme une suite d'obligations pesantes. Ouais. Je me rappelle une fois qu'on faisait de l'évangélisation et on parlait du pardon. Pourquoi tu ne veux pas venir à Jésus et être pardonné ? Venir à Jésus pour être pardonné ? Les chrétiens, c'est les seules personnes qui se sentent coupables. Intéressant comme remarque, hein ? Les chrétiens sont les seules personnes qui se sentent coupables. Qu'est-ce qu'ils percevaient des chrétiens ? Des gens qui vivent sous le poids des obligations et de leurs fautes. Pas des gens qui vivent dans la joie d'être pardonnés et acceptés par Dieu. Hein, je suis un peu méchant avec vous aujourd'hui. Hein ? Bien, je pense qu'il y a trois raisons principales qui fait qu'on refuse la grâce de Dieu. La première raison, quand je pose cette question, on me donne toujours cette raison-là. C'est on ne sait pas qu'on est pécheur. Ouais. Qui est rarement un problème des chrétiens. En tant que chrétien, on sait qu'on est pécheur. C'est le cas pour d'autres personnes, évidemment. Hein. Quoique. Mais quand je demande aux gens quelle est la raison pour laquelle on refuse la grâce, ils disent toujours « Ah ben parce que certains ne croient pas qu'ils sont pécheurs ». Pour accepter la grâce de Dieu, évidemment, il faut croire qu'on en a besoin. Et il y a toujours quelque part l'orgueil qui se réveille et qui nous fait penser qu'on peut quelque part se passer de la grâce de Dieu. Qu'on n'en a pas besoin d'une manière ou d'une autre. Vous savez que c'est le grand thème de l'Épître aux Romains en particulier, où vous avez les trois premiers chapitres des Romains qui présentent une grande vérité, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Romains 3, 23, qui résume un peu ces trois premiers chapitres de Romains. Tous sont pécheurs. Et je constate que notre problème, c'est pas tellement qu'on n'accepte pas qu'on est pécheur. Le problème, c'est qu'on a toujours cette pensée derrière qu'on va s'en sortir tout seul. Donc on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Ouais, voyez, on est pécheur, mais en faisant un peu d'effort, on arrivera à s'en sortir, sans avoir besoin de l'intervention de Dieu. Et c'est plutôt là, généralement, que réside le vrai problème. C'est dur d'accepter que je ne peux pas, vraiment pas, m'en sortir tout seul. Je ne sais pas pour vous, moi je sais que j'accepte facilement d'admettre que j'ai un problème ou que j'ai fait une faute. Lorsque je sais comment m'en sortir. Vous voyez ? Là, j'accepte facilement que j'ai un problème. Accepter que j'ai un problème et que je ne peux rien faire, que j'ai aucune capacité de m'en sortir tout seul, là, j'ai de la peine. C'est là où parfois j'ai de la peine à accepter la grâce de Dieu. Accepter la grâce de Dieu, c'est dire que oui, j'ai un problème et je ne peux rien faire moi-même. J'ai réellement besoin de l'action de Dieu. Je pense qu'une des stratégies de Satan, avec nous chrétiens, mais avec nos contemporains aussi, c'est de nous faire utiliser d'autres mots à la place du mot péché. Parce que pour nous chrétiens, quand on est conscient qu'on est pécheur, tout de suite on pense, il faut que j'aille vers Jésus. Alors on utilise d'autres mots pour dire péché, dans notre langage français de tous les jours. Vous savez que le mot le plus courant qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour le péché, c'est un mot qui signifie littéralement rater sa cible, amartia, passer à côté de la cible. Être à côté du projet de Dieu pour moi. Être pas dans ses baskets, comme disent nos jeunes parfois. Vous voyez ? Avoir ce sentiment que ma vie, ça devrait être ça, et puis que je suis ailleurs. Vous voyez ? Là, littéralement, je me sens pécheur. Je me sens à côté du projet de Dieu pour ma vie. Et quand je parle avec mes contemporains, chrétiens ou pas, tous me disent ça. Je me sens mal dans ma peau, je me sens pas à l'aise, je me sens en décalage entre mes aspirations profondes et ma vie. Je ne suis pas satisfait de ma vie, coupe peut-être. Entre mes théories et la pratique. Vous voyez, je me sens en décalage. Mais ils ne disent pas « je suis pécheur et j'ai besoin du pardon de Dieu ». Alors que littéralement, c'est ça. Je suis pécheur, je suis à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. À l'époque où j'amenais mes gamins à la maternelle encore, j'étais toujours très marqué d'entendre les mamans qui parlaient devant la maternelle en attendant leurs gamins. Leur sujet principal, c'était, elles se sentaient coupables. Coupables de toutes sortes de choses. Ouais. Se sentaient pas une assez bonne maman, on va dire comme ça. Hein. C'est le grand sujet des mamans à la maternelle. Le problème, c'est qu'ensuite, elles n'ajoutaient pas « donc j'ai besoin de Jésus ». Elles ajoutaient « donc je dois faire plus d'efforts ». Ou « donc mon mari doit faire plus d'efforts ». Ça dépendait d'une à l'autre. Hein. Vous voyez, cette logique. On n'accepte pas la grâce parce qu'on n'est pas prêt à accepter que je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai réellement besoin de l'intervention de Dieu. On sait généralement que quelque chose cloche dans nos vies. Ça, on le sait. Après, dans mon cerveau, ça fait parfois un peu bizarre. Je sais que ça cloche, mais je ne l'amène pas à Jésus. Je cherche d'autres solutions ailleurs. Est-ce qu'on se tourne vers Dieu pour toute chose, que ce soit nos joies ou nos frustrations, nos blessures ou nos questions, mais aussi nos joies, évidemment. Est-ce qu'on vient simplement à Jésus avec tout ? On a besoin de lui. Et lui est heureux d'ailleurs de partager ces choses avec nous. Nous sommes tous pécheurs, je crois que ça on le sait tous. On peut vivre comme si Dieu n'existait pas, mais on sait quelque part qu'il y a un problème chez nous. Maurice Ray aimait dire que Dieu n'a jamais de problème avec notre péché. Il a un problème avec notre refus de la grâce. Je ne sais pas si vous connaissez Maurice Ray, il était professeur à Emmaüs dans les années 70, ça remonte un peu, il est décédé maintenant. Je me rappelle une rencontre qui m'a beaucoup marqué. J'étais tout jeune dans le ministère, lui avait 85 ans, puis on était allé le voir. Alors évidemment, on était jeune dans le ministère, qu'est-ce qu'on va demander à Maurice Ray ? Il faut que tu nous aides à définir notre vision d'engagement pour les étudiants. Et lui nous a dit, il faut que tu apprennes à croire en la grâce de Dieu. Et ensuite, il a parlé de sa vie. À ce moment-là, Maurice Ray, il avait aussi encore son épouse avec lui. Son épouse était Alzheimer assez gravement. Et c'était pas facile de vivre avec son épouse. Et il me disait, ben, vous voyez, moi, j'apprends la patience. J'apprends la patience. Ouais, 85 ans. Plus de 60 ans de ministère pastoral, il disait « j'apprends la patience ». Là, quelque part, ce que j'ai besoin, c'est d'apprendre la grâce de Dieu. Vous voyez ? Lui, il visualisait ça comme ça, que chaque matin, il demandait au Seigneur de lui mettre un bavoir propre. Puis en cours de journée, il disait, Seigneur, tu vois, j'ai de nouveau sali mon bavoir, viens me donner un bavoir propre. Je ne sais pas si vous avez connu Maurice Ray, moi ça m'est marqué de dire, ouais, il a compris quelque chose. Le problème, ce n'est pas les assistants sociaux ne sont pas assez présents, le problème, c'est lui devait apprendre la patience. Et il était heureux d'avoir un Seigneur qui était là pour changer son bavoir plusieurs fois par jour, parce qu'une fois de plus, il n'avait pas été patient. Un autre obstacle à recevoir la grâce de Dieu, c'est quelque part ne pas savoir qu'on est gracié. Autrement dit, vivre comme si on n'était pas gracié. Vous savez sans doute qu'il s'est passé quelque chose d'important le 18 décembre 1865. Le 18 décembre 1865, c'est le vote de l'émancipation des esclaves aux États-Unis. Et puis, dans les années qui suivent, le Parlement américain a envoyé des émissaires dans les campagnes pour voir comment cette loi était mise en pratique. Et voici quelques extraits de leur rapport. La grande majorité des esclaves du Sud, légalement libres, continuèrent à vivre comme des esclaves, comme si rien ne s'était produit. On raconte qu'un esclave d'Alabama a dit ceci. On lui a demandé ce qu'il pensait du grand libérateur, autrement dit d'Abraham Lincoln. Alors voici ce qu'il répond. Je ne connais rien au sujet d'Abraham Lincoln, sinon qu'il nous a affranchis. Et je ne sais rien à ce sujet-là non plus. Intéressant, hein ? Il y a eu une guerre pour affranchir les esclaves, mais pour beaucoup, rien n'a changé. Voici un autre extrait de ce rapport. Malgré la cruauté et la brutalité de beaucoup de leurs maîtres, les hommes et les femmes de race noire choisirent de continuer à les servir jusqu'à leur mort. Dans beaucoup de régions, l'on n'aurait jamais cru que l'esclavage avait été officiellement aboli. En réalité, les propriétaires de plantations ne désiraient rien d'autre. Vous voyez ce qu'ils disent ici. Les esclaves ont été libérés. Mais ils n'y croient pas vraiment. Certains ne savent même pas qu'ils ont vraiment été libérés. Certains sont libérés mais choisissent de rester dans une condition qu'ils connaissaient. C'est ce qu'on dit. Hein. Beaucoup des hommes et des femmes de race noire choisirent de continuer comme avant. Et puis on dit aussi qu'évidemment les maîtres ça les arrange. Ça n'étonne personne. Hein. Nous avons été libérés par Christ pour vivre selon la grâce, et souvent on fait comme ces esclaves-là, on vit comme si rien n'était. Il y a en nous quelque chose qui résiste à vraiment accepter la grâce de Dieu dans nos vies. Et évidemment, ça arrange notre ennemi qu'on reste vivre sous cette espèce d'oppression, de la culpabilité, de « je fais jamais assez bien, je suis pas assez bien, et puis est-ce que Dieu va vraiment pardonner tout ça ?» Oui, évidemment, ça arrange Satan. Dieu nous a réellement, Jésus a vraiment gagné notre salut. Des fois, cette pensée, ça m'aide un petit peu, parce que je me stresse assez facilement. Donc, il y a des moments où je pars un peu en vrille, hein, comme on dit, et je me dis, stop, Jésus est mort pour te gagner la paix, tu ne vas pas te laisser voler cette paix. Des fois, ça nous aide un petit peu de dire, il y a quelqu'un qui aimerait nous voler ce que Jésus a gagné pour nous. À cause de son grand amour, Dieu nous a fait revivre avec le Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dans ses lettres, l'apôtre Paul développe beaucoup le problème, j'ai déjà dit un peu, hein, mais des chrétiens qui ne veulent pas de la grâce de Dieu. Certains ne savent pas qu'ils sont sous la grâce de Dieu, mais d'autres, c'est peut-être presque plus grave, ils se méfient de la grâce de Dieu. Ils se méfient de la grâce de Dieu. Ils pensent qu'accepter la grâce de Dieu, ça conduirait à les éloigner de Dieu. C'est étrange, hein ? Dieu nous fait un cadeau, et si on l'accepte, ça nous éloigne de Dieu. Mais c'est la pensée de beaucoup de chrétiens au temps de l'apôtre Paul. Alors, on va lire quand même quelques versets dans Romains 6. Romains 6 qui traite essentiellement de cette question-là. Des chrétiens de Rome ne veulent pas entendre parler de la doctrine de la grâce. Et, bon... Alors c'est des argumentations de l'époque, mais on arrive quand même à lire entre les lignes et à retrouver qu'est-ce qu'ils disent. Alors on va juste simplement lire quelques versets. Romains 6 à partir du verset 15. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. « Mais quoi, allons-nous encore pécher, sous prétexte que nous sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous vous êtes soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Voilà. Un passage un peu compliqué qui mériterait un long développement. Mais ça, Vincent et Chris feront ça pour moi. Je voulais juste revenir au premier verset. Quel est le problème pour eux ? Vous voyez, l'apôtre Paul, comme il le dit, « Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous sommes sous la grâce et plus sous la loi ?» Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il compare deux éléments, vivre sous la grâce ou vivre sous la loi. Vivre sous la loi, ça veut dire « je vis par les efforts ». Je vis par les efforts, par la peur de la punition. C'est ça, vivre sous la loi, hein, si on le résume très court. Hein. Autrement dit, ce que disent les chrétiens de Rome, c'est « si je relâche mes efforts, je vais glisser dans le péché ». Le pardon de Dieu, c'est très bien, mais je dois toujours me mettre sous pression, sinon je vais régresser. La grâce de Dieu, c'est bien pour l'éternité, mais sur terre, il vaut mieux vivre par les efforts. C'est ça le problème des chrétiens de Romains. Et c'est ce qu'ils disent à l'apôtre Paul. Ta théorie, c'est très bien, mais si on croit en la grâce de Dieu, on n'aura plus aucune raison de faire le bien. Vous voyez ? Les chrétiens de Rome refusent la grâce parce que ils croient que la solution, ce sont les efforts des hommes, et non pas la grâce de Dieu et l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Je vous propose de lire quelques passages dans un roman de mes enfants qui s'appelle « Le cheval et son écuyer ». Je vais raconter plusieurs histoires hein, pendant ce temps, parce que bon, j'aime bien les histoires, et le but n'est pas forcément de vous abreuver de choses que vous savez déjà, mais plutôt... Voilà. Dans cette histoire-là, le cheval et son écuyer, il y a deux chevaux, alors c'est des chevaux parlants, hein, parce que c'est un conte de fées, qui ont appris qu'il y avait un complot, et ce complot, c'est un pays qui veut attaquer le royaume d'Aslan. Si vous avez vu Narnia dans les films. Hein. Et donc, ils ont appris ça, donc ils sont partis, les deux chevaux se sont enfuis de leurs écuries pour aller prévenir les Narniens qu'ils allaient être attaqués. Vous voyez la logique ? Donc évidemment, la logique, c'est qu'il faut aller le plus vite possible pour arriver avant l'ennemi. Et puis, ils ont traversé un désert, ils ont marché très longtemps, et puis à un moment donné, ils s'arrêtent pour dormir pendant la nuit, et puis le matin, ils se réveillent, ils n'ont pas envie de se remettre à marcher. Alors je vous lis quelques moments de la discussion ici. Brie, c'est un des deux chevaux. Brie, c'est un cheval de bataille, il appartenait à un chevalier, et il dit... « Je ne peux pas continuer sans un encas. Enlève-moi ma ride, s'il te plaît. » Et l'autre cheval, qui s'appelle Wynne, dit « S'il vous plaît, j'ai tout comme Brie l'impression de ne pas pouvoir continuer, mais quand les chevaux portent des humains avec des éperons et tout ça sur leur dos, est-ce qu'ils ne sont pas souvent obligés de continuer, même s'ils ont l'impression de ne pas pouvoir ? Et là, ils découvrent qu'ils peuvent. Je veux dire, est-ce que nous ne serions pas capables de faire encore plus maintenant que nous sommes libres ? C'est pour Narnia. Je crois, madame, dit Brie d'un ton très cassant, que j'en sais un peu plus long que vous sur les campagnes, les marches forcées et sur ce qu'un cheval peut supporter. Wynne ne répondit rien à cela, car elle était, comme la plupart des juments de haute naissance, une personne fragile et douce que l'on déstabilisait facilement. En réalité, elle avait parfaitement raison. Et si Brie avait eu sur son dos un chevalier pour le faire avancer, il se serait découvert capable de marcher à la dure pendant plusieurs heures. Mais l'une des pires conséquences de l'esclavage, c'est quand il n'y a personne pour vous y obliger, vous vous révélez pratiquement incapable de vous forcer vous-même. J'aime bien cette conclusion. Une des conséquences de l'esclavage, c'est qu'on se sent incapable de faire le bien par soi-même. Quand on a eu l'habitude que c'est les autres qui nous forcent à faire le bien, ou que c'est notre peur d'être puni, ou d'être mal vu par Dieu, ou j'en sais rien. Vous voyez ? Il est difficile d'être libre. Et c'est ce que dit ici la jument. On est libre, on devrait faire plus. Parce qu'on est libre. Parce qu'on aime notre maître. Dans la suite de l'histoire, il se prélasse jusqu'à presque 11h. Et c'est seulement 11h du matin qu'ils vont continuer leur route. Et il va arriver toutes sortes de péripéties pour qu'ils arrivent juste avant, vraiment juste avant les ennemis. Quand Paul attaque la question du salut par les œuvres, il dit surtout que c'est un problème d'orgueil. Parce qu'on croit que nos efforts, nos œuvres vont être suffisants pour notre pardon. Quelque part, on attache beaucoup trop d'importance à soi-même. Autrement dit, on dévalorise l'action de Dieu. C'est ce qui a fait en fait réagir Luther. La réaction de Luther, c'était pas tellement que les gens donnent de l'argent pour les indulgences, voyez. Le problème de Luther, c'est qu'il pensait qu'on dévalorisait la grâce de Dieu en disant qu'avec de l'argent, ça fait tout comme, quoi. Pour lui, la grâce de Dieu est tellement grande qu'on ne peut rien faire pour la mériter. Elle est toujours bien au-dessus. Vous voyez, on est dans la logique que je disais tout à l'heure. On croit qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul, quelque part. Et ça, c'est de l'orgueil. Mais on déguise ensuite cet orgueil en disant « Oui, je suis un pauvre pécheur, j'ai besoin d'actes précis pour me diriger, pour m'apprendre à faire mieux. » Vous voyez, on déguise notre orgueil dans une espèce de forme d'humilité. La réalité, on croit toujours que c'est par nous-mêmes qu'on va obtenir ce que Dieu seul peut donner. D'ailleurs, vous avez déjà sans doute déjà remarqué que notre société est une société très basée sur les efforts. J'aime bien, quand je suis chez mon médecin ou chez mon dentiste, regarder un peu les magazines féminins, et je suis toujours très horrifié du nombre de commandements qu'on trouve là-dedans. Il y en a bien plus que dans la Bible. Hein. Vous avez déjà vu ça, hein ? Tout ce qu'il faut faire pour être bien dans sa peau. Après, si vous astreignez à faire tout ça, vous n'êtes certainement pas bien, vous êtes juste stressé, quoi. Ouais, vous êtes d'accord avec ça ? Mais bon, on est dans une société très légaliste. C'est en faisant un peu plus d'efforts qu'on va enfin être heureux au bout. Puis en fait, on n'est pas plus héros, donc il faut en rajouter des choses, ou posséder des choses en plus. C'est simplement une forme de salut par les œuvres, si vous voulez. Hein. Ce qui va changer notre vie, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous donner la vraie vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous qui ne dépend pas de nous. C'est ça qui va changer nos vies. Deux petits peut-être exemples pratiques, c'est juste pour nous aider à nous rappeler qu'il faut faire attention avec nos efforts. Il y a une dame dans notre église, c'est une grand-maman, qui a des soucis avec l'alcool. Et chaque fois qu'elle doit garder ses petits-enfants, ça la met sous un stress terrible. Elle se dit toujours qu'elle n'arrivera pas, qu'elle ne sait pas bien faire, qu'elle n'aura pas assez de patience. Elle fait toujours une montagne quand elle vient. Alors qu'est-ce qui se passe quand elle est stressée ? Elle boit. C'est comme ça qu'elle se calme. Donc évidemment, sa fille est très inquiète que sa fille boive quand elle a ses petits-enfants. Donc que fait la fille ? Elle fait une liste de recommandations à n'en plus finir. Quand tu as mes enfants, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Quel effet ça a ? Ben, ça aide certainement pas la maman à faire bien. Si elle ne donnait pas les recommandations, est-ce que la maman ferait bien ? Ça, on ne sait pas. Mais le fait de donner les recommandations, ça, on est sûr que ça ne va pas bien se passer. Quand on rajoute des pressions et des efforts, on est sûr que ça ne se passe pas bien. Pourtant, on a toujours dans la tête cette idée, si je ne fais pas des efforts, ça va mal se passer. Ouais, c'est étonnant. Hein ? On le voit avec les enfants. Vous avez déjà vu ? Il y a des enfants qui obéissent quand on les voit, et il y a des enfants qui obéissent quand on les voit et quand on ne les voit pas. Vous avez déjà vu ça ? Et quand on regarde ça, on se rend bien compte que les enfants qui obéissent quand on ne les regarde pas, ce ne sont pas ceux qui ont peur des punitions. Ce sont ceux qui savent qu'ils sont aimés. Qui savent que même s'ils font des bêtises, ils sont aimés quand même par leurs parents. Ceux-là, ils vont faire bien quand on ne les regarde pas. Le fait de savoir que le Seigneur nous aime est beaucoup plus efficace pour notre sanctification que de faire un peu plus d'efforts en plus. Alors, vous avez déjà remarqué sans doute dans les épîtres de Paul, il écrit à des chrétiens, en tout cas certains, qui ont une vie un peu étrange, notamment dans les Corinthiens. Il ne leur dit pas « faites plus d'efforts ». Il leur dit « il vous faut comprendre la grâce de Dieu un peu plus. Si nous avons confié notre vie à Christ, nous sommes pardonnés. Dieu nous voit comme quelqu'un de bien. » Vous connaissez le psaume 139, hein ? où David dit « Je suis une créature merveilleuse ». Je ne sais pas si vous vous dites ça souvent devant la glace. « Je suis une créature merveilleuse ». Pourtant, c'est comme ça que Dieu nous voit. Mais moi, je suis toujours plus malin que Dieu. Hein. Je me dis que pour être une créature merveilleuse, il faudrait que je change ça. Et après, c'est étonnant, hein, comme brusquement, on sait mieux que Dieu ce qu'il faudrait faire. La grâce de Dieu nous suffit pour être des chrétiens à part entière. La grâce de Dieu nous suffit pour être des chrétiens à part entière. Dans le Nouveau Testament, on voit que chez les Colossiens, ils ont un problème. Ils pensent que pour être un chrétien à part entière, il faut qu'ils connaissent plus de choses encore. Les Romains, ils ont un autre problème. Ils pensent pour être des chrétiens à part entière, il faut qu'ils fassent plus d'efforts, qu'ils en fassent plus. Pour les Corinthiens, c'est encore un peu différent. Pour être des chrétiens à part entière, il faut avoir vécu des expériences spéciales. C'est presque le plus horrible encore, hein ? Parce qu'on se dit que pour être un chrétien à part entière, il faut quelque chose de spécial, mais quelque chose qui dépend là, alors pas du tout de moi, une espèce d'expérience mystique, je ne sais pas quoi. Hein ? Et Paul insiste pour tout cela, dans toutes ses épîtres, ce que nous avons besoin pour être un chrétien à part entière, c'est la grâce de Dieu, et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a rien à rajouter à ça. Et si j'ai des choses à changer, c'est le fait de savoir la grâce de Dieu et l'amour de Dieu qui va faire que je vais changer, justement. Moi, je vais me donner un petit exemple. Chez moi, à Vendeuve, souvent, je m'énerve. Parce qu'on a pas mal de jeunes qui sont convertis, clairement, mais qui ne veulent pas se faire baptiser. Et quand on leur dit pourquoi, ils disent « Ah ben non, pour se faire baptiser, il faut recevoir quelque chose de spécial de la part du Seigneur. » Mais pourquoi ? Pour te faire baptiser, il faut que tu saches que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et justement pas vivre quelque chose de spécial. Vous voyez cette idée qui est toujours derrière chez nos jeunes. Alors je me dis, je me demande, mais qu'est-ce que je leur enseigne pour qu'ils croient toujours ça, hein? Ouais, toujours ça. Pour être un chrétien à part entière qui a le droit d'être baptisé, il faut une expérience spéciale. Pourquoi je refuse la grâce, parfois par ignorance, parfois par une sorte de méfiance, en pensant que mes efforts sont une meilleure solution? Et une troisième raison pour laquelle on peut refuser la grâce de Dieu, c'est quand on pense qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu. Alors c'est un peu étrange, hein ? On sait bien que la grâce, ça ne se mérite pas. Mais on a souvent cette pensée ça en nous. Finalement, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je me rappelle dans notre groupe d'aînés, la plus jeune a 85 ans, je crois, et on parlait de la grâce de Dieu. Et une dame disait « Non, j'y crois pas à la grâce de Dieu ». Je lui demandais « Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas la grâce de Dieu ?» Alors elle disait, il y a deux raisons pour lesquelles je ne veux pas la grâce de Dieu. La première chose, c'est si ce qui compte, c'est la grâce de Dieu, ça veut dire que des méchants pourraient être sauvés comme moi. Ben oui. Et la deuxième raison pour laquelle elle ne voulait pas de la grâce de Dieu, c'est, elle m'a dit comme ça, hein, on m'a toujours dit que je n'étais bonne à rien. C'est difficile de se libérer de ça, hein, et d'entrer vraiment dans la grâce de Dieu. Un passage biblique que je trouve assez parlant par rapport à cette grâce de Dieu, c'est le fait de se sentir digne de la grâce de Dieu, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous connaissez cette histoire de Caïn et Abel? Une histoire assez étonnante que je vous propose de lire. On terminera ensuite avec ça, avant de refaire une pause, mais l'histoire de Caïn et Abel, je trouve, est vraiment très intéressante. Alors, on ne va pas lire toute l'histoire, mais je vous invite à lire dans Genèse 4. On va lire juste les 7 premiers versets, juste pour se la remettre en tête. Je pars du principe que vous connaissez au moins les grandes lignes de l'histoire de Caïn et Abel. L'homme, donc Adam, s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devient berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Voilà. Et bien sûr, dans la suite, Caïn n'a pas du tout maîtrisé le péché qui était à sa porte et il assassine son frère. Quand on lit ce passage, souvent on bloque sur la question « Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté l'offrande de Caïn ?» Finalement, Caïn a fait sans doute autant d'efforts que son frère. Pourquoi Dieu attache plus de faveur à Abel qu'à Caïn ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce type de pensée-là. En fait, c'est la pensée de Caïn dans ce texte. Ça nous gêne un peu, hein ? C'est ce que pense Caïn. Caïn pense qu'il mérite les faveurs de Dieu. Il a fait des efforts, donc Dieu doit l'agréer. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand je lis un texte avec quelqu'un, c'est ce qu'il me dit. Les gens sont d'accord avec Caïn sur ce point. Pourquoi Dieu fait-il une différence ? Caïn s'est donné autant de peine qu'Abel, Dieu devrait être autant favorable à l'un qu'à l'autre. Vous voyez ? On est vraiment dans une pensée des œuvres. Si je fais, alors Dieu doit me bénir. Étonnant. Si on est dans une logique de grâce, Dieu ne me doit rien. Si Dieu veut montrer une marque de faveur particulière à Abel, bah, c'est la grâce de Dieu. On nous dit nulle part qu'il aime plus Abel que Caïn, par exemple. Hein ? Si on est dans une logique de grâce, c'est Dieu qui choisit. Pourquoi on voudrait qu'il fasse comme ça, comme moi je l'ai prévu ? Parce que j'ai fait des efforts. Étonnant, hein ? Si Dieu est un Dieu de grâce, il ne nous doit rien. Il n'est même pas obligé de faire quelque chose de particulier pour moi ou pour les autres. D'ailleurs, en passant, si je sais que je suis aimé de Dieu, quelle importance ça a qu'il agisse différemment pour moi que pour un autre ? Quand les gamins se bagarrent sous le sapin de Noël parce qu'ils ont un autre cadeau que celui d'à côté, c'est vraiment qu'ils croient que les parents ne les aiment pas. Vous voyez ? Si les enfants savent qu'ils sont aimés, ce n'est pas un problème le cadeau qu'on reçoit. Je me rappelle un accompagnement qu'on avait fait avec une dame qui doit avoir plus ou moins une cinquantaine d'années. Elle a vraiment été cassée dans sa jeunesse par un papa qui voulait jamais ne faire de différence entre ses deux sœurs. Il y avait deux sœurs, 2 ans d'écart, et c'était toujours exactement les mêmes cadeaux, exactement les mêmes choses pour les deux sœurs. Qu'est-ce qu'elle a retenu ? Bah, elle a retenu qu'elle n'existait pas vraiment, que son père était incapable de la voir comme elle était. Quand on aime quelqu'un, on fait justement une différence entre les gens. Vous êtes d'accord ? Dieu agit par amour pour Caïn et pour Abel. Il agit aussi avec un certain sens de la justice. Et dans ce texte, la justice, c'est justement de se tourner spécialement vers Abel plutôt que vers Caïn. C'est ça la justice dans ce texte-là. Si on regarde le début du texte, vous avez vu l'attitude d'Ève. Quand Caïn est, elle dit quoi ? Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai fait un homme. J'ai fait un homme. Oui. Elle a un bébé dans les bras, elle dit, voilà un homme. Wow. Quand Abel naît, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle lui donne le nom de Abel. Vous savez ce que ça veut dire, Abel ? Ça veut dire rien. Rien. C'est le mot qu'on trouve au début de l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Hein ? Rien. Vous imaginez le gamin ? Qui va à l'école, comment tu t'appelles ? Ben, rien. Oui. Vous imaginez un peu l'éducation qu'ils ont reçue, ces deux frangins. Il y a un homme et il n'y a rien. Ouais, voyez l'éducation qu'ils ont reçue. Et on n'est pas étonné que Caïn se prend un petit peu pour le centre du monde dans cette histoire. Je décide et Dieu doit. On comprend que Dieu n'est pas très favorable avec cette attitude-là. Je décide et Dieu doit se soumettre à mes idées. La logique de Caïn, c'est « je décide, et puis quand les choses ne se passent pas comme j'ai prévu, j'ai le droit de me fâcher. Et quand je suis fâché, je me venge sur le frangin. Le petit rien, il est bien là pour ça. » Dieu lui dit « le vrai problème, c'est le péché. » Qu'est-ce qu'il dit Caïn ? « Le vrai problème, c'est mon frère. » On comprend que Dieu était plus favorable avec Abel qu'avec Caïn, non ? Vous voyez la foi de Caïn ? Dieu valorise justement celui qui est traité comme un rien par sa propre famille. Et il appelle à l'humilité celui qui est un peu trop sûr de son bon droit. N'est-ce pas aussi ça la grâce de Dieu ? N'est-ce pas comme ça que j'aimerais que Dieu me traite ? qu'il me rabaisse quand je suis orgueilleux et qu'il me rappelle son amour quand je suis méprisé. J'ai parfois besoin, parce que je suis orgueilleux, que Dieu me rappelle que j'ai besoin de la grâce de Dieu, que je ne peux pas m'en sortir tout seul. Et d'autres fois, j'ai besoin que Dieu me rappelle que je peux recevoir cette grâce, que Dieu me la donne. À cause de son grand amour, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. À cause de son grand amour, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Je l'invite simplement à prier pour terminer. Seigneur Jésus, c'est vrai que nous avons beaucoup de peine à aimer vraiment, à aimer sans condition. Et tu vois, Seigneur, comme nous avons si souvent tendance à projeter sur toi nos propres travers, à penser que toi aussi tu aimes sous condition. Et je te dis merci, Seigneur, par cette grande vérité, que tu nous aimes tout simplement, sans aucune condition de notre part. Tu nous fais grâce simplement parce que tu nous aimes. Jésus, aide-nous à vraiment vivre sous cette certitude de ton regard d'amour à chaque instant de notre vie. Amen.